15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Malgré le confinement, toute l'équipe se mobilise pour continuer à vous informer, pour répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez sur cette épidémie de coronavirus. Et pour ce faire, il m'accompagne tous les jours de chez lui, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Vous mettez toujours un petit temps de retard là pour me répondre bonjour, vous me faites peur à chaque fois.
Non, je pense que c'est un problème. Non, mais à mon avis, c'est la technique parce que je réponds dans la foulée, je me dis vite, je lui réponds avant qu'elle ne s'envoie.
Je me dis, il n'est pas là, c'est pas possible. Bon, il est là, tout va bien. Allez, au programme, comme tous les jours, nous aurons plusieurs experts en ligne. D'abord, l'un des membres du comité scientifique du gouvernement, le professeur Pierre-Louis Druet. Il est aussi médecin généraliste, alors que le président de la République annoncera lundi prochain un prolongement du confinement. Avec le professeur Druet, nous reviendrons sur les critères de sortie justement de ce dernier. Oui, nous sortiront un jour, mais il faudra que pas mal de voyants sanitaires soient au vert. Il nous détaillera les critères sur lesquels le comité scientifique veut justement baser la stratégie de déconfinement pour éviter évidemment une éventuelle deuxième vague. Après ça, nous nous arrêterons sur un essai clinique qui va tester l'injection de cellules de cordon ombilical chez des malades du Covid-19 pour peut-être traiter l'inflammation parfois massive dans les poumons de ces patients. Nous ferons le point sur cette piste avec le professeur Philippe Ménaché. Enfin, une autre conséquence de cette épidémie et surtout du confinement, la consommation d'alcool pourrait fortement augmenter. Alors comment gérer ce problème, y compris chez ceux qui avaient déjà un problème d'addiction au départ? Pour en parler, nous recevrons l'addictologue, le docteur Laurent Carilla. Et pour finir cette émission, on retrouvera comme tous les jours Catherine Blanc, notre psychanalyste, qui va conseiller aujourd'hui une jeune femme qui enchaîne les cauchemars en rapport avec le coronavirus depuis le confinement.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour, professeur Pierre-Louis Druet, pardon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes aussi l'un des membres du conseil scientifique Covid-19 du gouvernement. Professeur Druet, lundi prochain, le président de la République va s'exprimer et donc va annoncer, l'Élysée l'a confirmé, un prolongement du confinement. Bon, on va dire que ça va dans le sens de ce que le conseil scientifique a préconisé depuis le début, non ?
Le Conseil scientifique a surtout préconisé les conditions d'un bon confinement et les critères qui permettent de dire que ce confinement est efficace. Et le constat qu'on peut faire du retour vers une forme de normalité par rapport à ce qu'on vient de vivre de façon un peu violente, particulièrement dans l'Est et en Île-de-France.
On partira pour au moins 15 jours de plus, sûrement beaucoup plus. Je sais bien qu'on n'a pas la date précise de la fin du confinement aujourd'hui, mais ça sera vraisemblablement plus de 15 jours de plus quand même. Hein.
Bah, écoutez, très vraisemblablement 15 jours de plus, dans la mesure où les conditions du confinement étaient déjà, pour le conseil scientifique, proposées sur une période de 6 semaines par rapport à la date de début de l'épidémie, sur des critères qui sont liés à l'évolution même de la vie du virus, l'évolution de la maladie et la sortie de réanimation des patients qui ont nécessité d'être admis et ventilés. Mmh. Ensuite, il y a un certain nombre de conditions qui sont liées au fait qu'il va falloir retrouver une certaine forme d'activité plus raisonnable dans ces services, dans la mesure où on sait bien que toute sortie de confinement peut favoriser une bien forme sûr. De reprise de l'épidémie. Le corona va recirculer un peu plus, donc il faut être capable de faire face avec des services adaptés, plus dans cette position très extrême du travail qui a été imposé aux différents services hospitaliers et avec une bonne organisation sur le terrain du suivi des patients.
On va détailler ça juste après. Jimmy Mohamed,
Est-ce que vous pensez que c'est mieux pour l'acceptation vis-à-vis de la population qu'on annonce ce confinement par étapes, c'est-à-dire qu'on renouvelle à chaque fois, plutôt que dire d'emblée, écoutez, pendant une période de 2 à 3 mois, vous allez rester à la maison? Est-ce que c'est plus facile à accepter pour les gens?
Alors là, je vais vous donner une réponse personnelle, parce que c'est pas un sujet qui a été évoqué par le Conseil scientifique, mais moi, je suis médecin généraliste depuis 43 ans bientôt, et j'ai toujours considéré que dire les choses d'emblée, dire la réalité, l'authenticité d'une situation, c'est la meilleure manière de garder de la confiance, et c'est la meilleure manière d'être opérationnel. Donc personnellement, je pense qu'il fallait annoncer la couleur d'emblée. Les choix sont politiques, les choix personnels et les choix scientifiques peuvent être différents.
Bien sûr, évidemment. Quelle que soit la durée totale du confinement, est-ce que déjà, en tout cas, vous diriez que ça fonctionne? Est-ce qu'on voit déjà les premiers effets de cette mesure vraiment aujourd'hui?
Oui, avec ce que moi je qualifie d'un confinement relatif, puisqu'il y a à peu près un tiers de la population active qui fonctionne, on peut dire que l'impact a été quand même obtenu avec une baisse de la courbe, avec une diminution sensible actuellement des admissions hospitalières et des admissions en réa surtout, et avec des éléments pas encore franchement établis, mais qui montrent qu'on va effectivement vers une amélioration globale sur le territoire. Pour autant, il ne faut pas rester endormi, le confinement c'est toujours à garder en l'esprit.
Ouais, bien sûr. Jimmy ?
Est-ce que vous pensez qu'on pourrait ou devrait durcir le confinement, non pas peut-être aller jusqu'à ce qu'on a fait en Chine, mais de façon un peu plus stricte? En Italie, des gens ont eu même des horaires limités autorisés par quartier pour faire des courses. À Paris, on a restreint l'activité physique à tel point que finalement tous les joggers donnent rendez-vous à 19h comme si on était obligé de faire du jogging. Est-ce que vous pensez qu'on devrait peut-être aller un petit peu plus loin si jamais les chiffres n'étaient pas satisfaisants?
Alors, si les chiffres ne sont pas satisfaisants, ou s'ils ne l'étaient pas, il faudrait déjà se poser la question de l'application même des règles actuelles. Parce que c'est toujours pareil, les gens qui respectent, tout d'un coup, se voient durcir les conditions au prétexte qu'une petite partie de la population ont un comportement incivique. Donc moi, je ne suis pas partisan de durcir, mais je suis partisan de faire respecter et de durcir les éléments qui permettent de faire respecter. Et je dirais aussi de faire prendre conscience. Parce que on peut quand même concevoir qu'au bout de 3 semaines de confinement, pour certaines populations, soit difficile et dur. Mais quand je vois qui est dans la rue à ce moment-là, c'est rarement ces personnes-là qui profitent du jogging et de la sortie sur les bords de Seine ou sur les bords d'une quelconque rivière dans les grandes villes.
Parce que tous ces joggeurs là, rassemblés qu'on a vus dans les images hier soir, après 19h sur les quais de Seine, c'est impressionnant, ils sont très près, les distances sont même plus respectées. Puis quand on court, j'imagine qu'on diffuse des particules parce qu'on respire fort, enfin le risque il est encore plus important, donc, de créer des mini-foyers de joggeurs coronavirus là.
Bien sûr, vous n'imaginez pas, vous avez raison. Mais nous, soignants, moi, médecin qui ai des patients qui sont atteints, qui ai des patients hospitalisés, qui ai perdu quelques confrères, je trouve absolument inacceptable et scandaleux, voire même indécent, de voir ce spectacle. C'est vraiment des gens qui sont dans un égoïsme pur et dur et qui pensent à leur petite personne et qui ne s'impliquent pas vis-à-vis des autres, je le dis clairement.
Alors, on va passer à ce que le conseil scientifique dont vous faites partie, bien sûr, préconise pour sortir du confinement. Justement, vous avez publié un avis sur la question. D'abord, vous dites dans cet avis que déconfinement, il faut que les gens le comprennent bien, que ça rentre dans la tête. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, quand on sera déconfiné, on va pouvoir reprendre notre vie d'avant. Il y aura toujours forcément des mesures strictes contre le Covid, même au moment où on pourra circuler.
Eh bien oui, parce que, si vous voulez, ce virus... comme toutes les épidémies, c'est historique, il a un comportement moyenâgeux. Il fonctionne, tous les virus, toutes les épidémies fonctionnent de la même manière. Ce sont les êtres humains, ce sont les éléments actifs qui le portent. Donc à côté de ça, le fait de reprendre une activité, d'augmenter la circulation, va fatalement permettre au virus de trouver des moyens de circuler un peu mieux. Donc il va falloir mettre en place un certain nombre de mesures à la fois de repérage des personnes positives, des mesures d'isolement des personnes positives, et puis des mesures d'isolement plus long des personnes à risque, pour éviter l'éternel leitmotiv de la proposition, c'est diminuer le nombre de cas et diminuer en particulier le nombre de patients à forme grave et risquant de mourir.
Merci professeur Druet. Bien sûr, on n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, Sans Rendez-vous revient. Le professeur Pierre-Louis Druet, membre du conseil scientifique, reste avec nous. Il va nous détailler juste après les critères très importants à atteindre absolument pour la sortie du confinement. Il faudra des stocks de masques suffisants, déployer les tests. Et puis, on n'y pense pas comme ça, mais le conseil scientifique préconise aussi que le personnel soignant ait pu bénéficier avant d'un temps de repos, de récupération suffisant avant qu'on puisse tous nous circuler à nouveau. On en parle juste après. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Sans Rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h avec une émission aujourd'hui toujours consacrée en grande partie aux questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous interroger au 39-21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Alors, il est toujours en ligne avec nous, le professeur Pierre-Louis Druet. Vous êtes médecin généraliste et membre du Conseil scientifique du gouvernement. Conseil qui vient donc de publier un avis sur la sortie du confinement. Et vous dites dans cet avis qu'il faudra la considérer, la sortie possible, quand trois éléments seront atteints. D'abord, en premier, vous dites qu'il faudra être certain que l'objectif principal du confinement sera là, à savoir que les services hospitaliers seront plus saturés, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On peut considérer, si vous voulez, que ce n'est pas encore le cas, puisque la diminution conduit toujours à avoir une saturation des services, car il ne faut pas oublier qu'on a quasiment multiplié par deux le nombre de lits, et il faut qu'on revienne à un nombre de lits correspondant à la disponibilité initiale, qui est d'un peu plus de 5000 lits, et avec un pourcentage de lits disponibles dans l'hypothèse où il y aura une petite remontée de la courbe de dissémination du virus, donc des patients Covid.
D'accord. Dis-moi.
Et puis, une fois que les chiffres iront mieux au niveau de l'hôpital, des services de réanimation, des urgences et des services hospitaliers, il faut peut-être, vous l'avez dit dans le rapport, qu'il faut laisser un peu de temps aux soignants pour récupérer, puisque en ce moment, ils sont au charbon tous les jours. J'ai un confrère, un ami réanimateur, qui m'explique travailler de 7h à 21h, 7 jours sur 7, depuis plus d'un mois, sans repos. Est-ce qu'il faudra qu'on accepte, je ne sais pas, 10, 15 jours pour que les équipes puissent se reposer ?
Je ne sais pas si... Les médecins, vous le savez bien, ont une capacité de récupération assez forte, mais il est vrai que quand on est dans cette activité avec la charge physique, la charge émotionnelle, les contraintes, et puis il ne faut pas oublier que quand on est tous en train de penser Covid, on dort aussi Covid. Les sommeils sont moins bons, on est dans une préoccupation permanente. Il y a une pression, si vous voulez, psychologique et mentale qui est forte. Et il faut que ce personnel, et je pense encore plus au personnel des infirmières et des jeunes médecins, des internes qui ont été mis brutalement dans un bain initiatique violent comme ça, il faut un temps de récupération pour y retourner. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y aura sûrement aussi un temps de réorganisation des services de façon à retrouver une certaine sérénité dans le soin et donc dans sa pertinence et dans sa qualité.
Ouais. Deuxième élément préalable au déconfinement, selon le Conseil scientifique, vous dites que le nombre de cas de Covid-19 sur le territoire national, il faudra qu'il ait fortement diminué. À quel point ça veut dire qu'on va devoir attendre qu'il y ait zéro cas, nouveau cas par jour ? C'est ça l'objectif ? Non, peut-être pas quand même.
Ah non. On a un principe qu'on va essayer d'expliciter dans la prochaine avis, c'est le fameux R0. C'est-à-dire que quand le R0 est à 1, ça veut dire qu'on a une possibilité qu'une personne atteinte peut contaminer autour de lui, une autre personne, et au-delà de 1, c'est parfois souvent 2 personnes. Donc on voit une progression géométrique, ce qui explique bien cette flambée. Quand le seuil sera inférieur à 1, on saura qu'on a déjà une capacité de réduction, mais il faut que ce seuil baisse de façon assez significative pour qu'une personne contaminée ne contamine que 0, quelque chose personne, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas systématiquement un doublement d'emblée des personnes atteintes. À ce moment-là, on peut penser qu'on est dans une diminution de l'épidémie. Et donc avec une capacité de réactivité et de réaction, dans la mesure où quand même, il faut se souvenir que ce coronavirus est à 80% une maladie qui guérit sans traitement, à part la surveillance et le paracétamol.
Bien sûr. Jimmy Mohamed ?
Il faudra aussi s'assurer qu'on a un système de surveillance de l'épidémie, puisque même si nous n'avons plus peut-être de phase importante, le virus continuera de circuler et désormais il faudra le surveiller. Ça passe par quoi ? Par des tests sérologiques et des tests rapides qu'on peut faire au bout du doigt ? Est-ce que ces tests vont être disponibles ? Est-ce que ça fait partie des éléments de surveillance ?
Ah oui, bien sûr, c'est un des corollaires à la levée du confinement. C'est la disponibilité des tests de dépistage d'un côté et des tests sérologiques de l'autre. Des tests sérologiques et des tests de dépistage avec une certaine facilité de mise en œuvre, une rapidité de résultat. On va aussi avoir à réfléchir à quel type de population on dépiste en premier. C'est évident que les premiers qui vont être concernés, va de soi, c'est tout le personnel soignant et tous ceux qui ont gravité autour des soins à ces patients. Et puis il y a les familles avec des personnes atteintes, puisque le dépistage, quand il va prendre de l'ampleur, va repérer de nouveaux cas, parfois asymptomatiques, mais on sait que c'est des gens qui sont en capacité de contaminer autour d'eux. Donc il va y avoir à la fois ce repérage, le sérodiagnostic, et puis des procédures éventuellement d'isolement.
Professeur Drouet, dans la vie, vous dites aussi qu'avant de sortir du confinement, il faudra être certain qu'on peut protéger les plus vulnérables vis-à-vis de ce virus. Donc ça veut dire quoi? Qu'on va laisser confiner, par exemple, les quasi 10 millions de Français qui ont plus de 70 ans?
Et qui ont plus de 70 ans, j'en fais partie, mais qui ont une pathologie associée à ce qu'on appelle des comorbidités ou une fragilité intrinsèque. Ça, c'est la première partie de cette population. C'est vrai que ça fait beaucoup.
Mais qui va le déterminer, ça? C'est-à-dire que vous allez, c'est le médecin généraliste qui fera un certificat qui dira vous avez 55 ans, de l'insuffisance cardiaque et vous.
Je pense qu'il y a plusieurs outils qui sont disponibles. Premièrement, les outils de dépistage et les outils de sérologie. Deuxièmement, effectivement, il y a un maillage territorial aujourd'hui de médecins généralistes, d'infirmières, de personnel s'occupant des personnes âgées au domicile qui sont en parfaite capacité d'apporter des informations. Les patients eux-mêmes, d'ailleurs, on va compter aussi sur eux pour poser la question de leur statut. Et avec ces éléments-là, on pourra probablement, si vous voulez, déterminer des critères d'isolement ou de sortie de confinement. Et puis je rappelle qu'il y aura un élément fondamental, c'est qu'il faudra qu'on soit en capacité de fournir à l'exigence que tout le monde porte un masque à partir du moment où il circule.
Oui. Merci beaucoup, professeur Drouet, d'avoir été avec nous. On sait que vous êtes très occupé, évidemment, en ce moment. Merci beaucoup pour votre éclairage, en tout cas.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, nous accueillons par téléphone le professeur Philippe Ménaché. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chirurgien cardiaque à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et vous avez une grande expérience notamment du traitement de l'insuffisance cardiaque par cellules souches. Alors, pourquoi cette piste? Alors, ce n'est pas les mêmes cellules, on va en parler. Cette piste contre le Covid-19 dans cet essai qui s'appelle donc Stromakov-2 qui est lancé par la PHP. Pourquoi on a pensé à ça?
Alors, on a pensé à ça, et en l'occurrence, le docteur Antoine Moncel, qui est réanimateur à la Pitié, a pensé à ça, car c'est lui l'initiateur de cet essai, parce que dans ces détresses respiratoires dues au Covid et qui conduisent malheureusement un certain nombre de patients en réanimation, il y a une très forte inflammation du tissu pulmonaire. Et donc, il paraissait logique d'explorer la piste de cellules dont on sait qu'elles ont de fortes propriétés anti-inflammatoires.
Et c'est le cas donc de ces cellules souches qui sont présentes dans le sang de cordon ombilical. On connaît déjà bien ces propriétés-là. Elles sont anti-inflammatoires, ces cellules?
Absolument. En fait, ce ne sont pas des cellules qui sont dans le sang du cordon. Ce sont des cellules qui se trouvent dans une gelée. Elle s'appelle d'ailleurs la gelée de Wharton, qui précisément entoure les vaisseaux. Et cette gelée est pleine de ces cellules dont on sait, je le répète, qu'elles sont douées de très fortes propriétés anti-inflammatoires et également de propriétés capables de réguler, dans le bon sens, le système immunitaire.
Jimmy Mohamed?
Et ces cellules de sang, on les a déjà utilisées dans certaines pathologies. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes?
Oui, bien sûr. Alors, ces cellules, si vous voulez, elles ont été utilisées dans de très nombreuses maladies qui comportent toutes une composante inflammatoire. Je pourrais vous citer par exemple le lupus, qui est une maladie auto-immune. Je pourrais vous citer certaines pathologies cérébrales, également des maladies du foie et des complications, certaines complications des greffes de moelle que l'on pratique pour traiter des maladies du sang. Donc il y a déjà une expérience importante et si vous voulez, quand on a mis en place cet essai, comme toujours, l'élément majeur, c'est le rapport bénéfice-risque. Alors certes, le bénéfice, il reste à démontrer. On ne peut pas aujourd'hui l'affirmer, il faut rester prudent. Mais en tout cas, le risque nous paraît relativement faible, car tous ces essais ont démontré d'une manière tout à fait constante l'excellente tolérance à ces cellules et l'absence en général d'effets indésirables qui peuvent leur être attribués.
Et professeur Ménaché, ce qui tombe bien aussi, c'est qu'on en a en stock de ces cellules souches de cordon, on est d'accord?
Alors, ça c'est important. Vous savez, quand on a mis en place l'essai, Il fallait d'une part des cellules douées de propriétés anti-inflammatoires. Il fallait deuxièmement des cellules dont on puisse dire a priori qu'elles seraient bien tolérées, mais il fallait, comme vous le rappelez, que compte tenu de l'urgence, ces cellules soient, non pas rapidement, mais quasi immédiatement disponibles. Et c'est là qu'intervient l'unité de thérapie cellulaire et le centre Ménard de thérapie cellulaire de l'hôpital Saint-Louis, que dirige le professeur Larguero. Et je voudrais ici insister sur le fait que c'est un véritable tour de force qu'a réalisé son équipe qui, en moins de 3 semaines, a pu mettre en place cette banque de cellules. Vous savez, tous les soirs à 20h, les Françaises et les Français applaudissent les soignants et je peux vous dire que ça nous fait chaud au cœur. Mais je crois qu'il est important de dire qu'au-delà des soignants, de ceux qui sont en première ligne auprès des patients, il y a aussi tous ceux qui, de façon un petit peu plus discrète, essayent aussi de faire quelque chose pour les malades. Et je pense important de dire que cette équipe y contribue à sa façon. Et je voulais citer Hélène Boucher, Guillaume Churlot, Audrey Crasse, Camille Maheu et Myriam Mébarki, parce que je pense qu'il est juste que leur travail soit salué et reconnu, car sans elles et eux, jamais cet essai n'aurait été possible.
Bien sûr, et on les salue évidemment. Jimmy Mohamed ?
Et donc dans cet essai, on va injecter justement à des patients qui sont plutôt sévères, ça, des patients qui sont en réanimation uniquement, qui sont intubés ?
Absolument. Ce sont des patients intubés, ventilés, avec donc vraiment une détresse respiratoire sévère, chez lesquels la composante inflammatoire est tout à fait évidente et qui recevront donc, qui reçoivent à 3 reprises, les injections étant séparées par 48 heures, qui reçoivent donc à 3 reprises ces cellules simplement par une perfusion intraveineuse.
Et ces patients, ils vont recevoir plusieurs injections, vous venez de le dire, mais c'est une piste qui est vraiment curative, c'est-à-dire l'objectif c'est quoi ? C'est de les améliorer un peu ou de les guérir complètement ?
Non, l'objectif c'est de les améliorer, il ne faut pas rêver. L'objectif, c'est d'essayer de réduire un petit peu cette réponse inflammatoire explosive. Hein. On a parlé d'orage, finalement, c'est assez imagé. De réduire un petit peu donc l'importance de cette réponse inflammatoire et donc de favoriser autant que faire se peut la réparation du tissu pulmonaire. Il ne s'agit pas de faire des miracles, mais si simplement, pour des patients qui aujourd'hui sont quand même ventilés en moyenne 15 jours, 3 semaines, on pouvait gagner quelques jours de ventilation, il est évident qu'on réduirait d'autant la morbi-mortalité qui est associée à ces thérapies tout de même très invasives.
Bien sûr, Jimmy.
C'est vrai qu'on voit qu'on est dans une situation d'urgence, les études sont démarrées très très vite, en général il faut des semaines, voire des mois plutôt, et là ça va assez rapidement. Dans quel délai, sous quel délai on peut se rendre compte de l'efficacité de ces injections ?
Alors écoutez, c'est une étude qui intentionnellement est menée selon les critères classiques, c'est-à-dire qu'il y a un groupe placebo, il y a un groupe traité, et l'essai est mené en aveugle. Donc, à la minute où je vous parle, je ne sais pas, pour un patient donné, s'il reçoit le placebo ou les cellules. Il va falloir attendre un petit peu, quelques semaines quand même, avant que l'étude étant terminée, on lève l'insu et qu'on se rende compte si oui ou non il y a eu un effet. Mais je suis content, monsieur, que vous ayez mentionné la rapidité nécessaire à la mise en place de ce type d'essai. Je suis content parce que je crois qu'aussi important de dire que si cet essai est possible, bien sûr, c'est grâce à Antoine Moncel qui l'a initié et à l'équipe de Jérôme Larguero, mais c'est aussi possible grâce vraiment au soutien infaillible que nous a apporté depuis le premier jour notre institution mère, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui, comme vous l'avez rappelé, est promoteur de l'essai. Et puis, une fois n'est pas coutume, donc autant le dire, il est rendu possible par l'incroyable réactivité dont a fait preuve l'agence réglementaire, l'ANSM, qui, parfaitement consciente, si vous voulez, de l'urgence de la situation et de l'importance des enjeux, et sans pour autant sacrifier à la qualité de l'analyse des dossiers, les a instruits avec une rapidité record, et donc nous a très vite donné l'autorisation permettant de démarrer l'essai.
Merci beaucoup, professeur Ménachier, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cet essai clinique qui démarre donc à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Et à présent, on accueille par téléphone le docteur Laurent Carilla. Bonjour.
Bonjour, Mélanie. Bonjour.
Anna. Jimmy, il est là, oui, aussi.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et addictologue. On vous a invité aujourd'hui pour faire un point sur la consommation d'alcool et ses éventuels risques pendant le confinement. D'abord, moi, je pensais que les gens allaient se ruer sur l'alcool parce que confinement, isolement, bah, déprime aussi, ça peut pousser certains à se réfugier un peu sur les boissons alcoolisées. Vous redoutez ça? Vous redoutiez ça, vous aussi, les spécialistes?
Bon, au début, ça a été comme ça un petit peu, en fait. Les gens ont fait n'importe quoi. Ils se sont, l'annonce du confinement, il y a eu une vague de stress importante pour tout le monde et les gens se sont dit on va acheter de l'alcool, on va acheter du sucre, on va être nos limites. Et ça s'est atténué, je ne parle pas des malades, hein, je parle de l'ambiance générale, ça a l'air de s'être atténué à partir de la troisième semaine de confinement en fait.
Mais bon, ils ont peut-être fait des grosses réserves au départ et là ils sont en train de consommer ce qu'ils ont acheté au départ aussi, c'est peut-être ça aussi le souci du côté de l'alcool, on ne sait pas trop.
On ne sait pas trop, mais en tout cas, on est revenu sur les messages de prévention avec la Fédération française d'addictologie. Hein. C'était les recommandations Santé publique France, 2 verres par jour et 2 jours sans consommer quand même. Hein. Donc 10 verres semaines avec 2 jours off.
Ouais. Jimmy Mohamed.
Et justement, d'une façon un peu globale, en cette période de confinement, alors évidemment, on espère que tout le monde ne sera pas ensuite addict à l'alcool. Est-ce que ça peut causer malgré tout des dégâts d'augmenter sa consommation, même sur le temps du confinement, c'est-à-dire le temps de quoi, 1, 2, 3 mois maximum, on peut quand même avoir des conséquences négatives?
Les recommandations Santé publique France, c'est des recommandations pour dire, voilà, à partir d'au-delà de cette reco, il y a un risque. Mais on sait très bien... qu'à partir d'un verre d'alcool, déjà, il y a un risque. Donc, il faut rester dans les normes Santé publique France et il faut maintenant essayer de moduler sa consommation d'alcool, mais aussi de tabac.
Mais là, sur les 3 mois dont parle Jimmy, éventuellement, 2-3 mois, on ne sait pas trop. Le foie, par exemple, il peut trinquer déjà, vraiment
Le cerveau,
c'est quoi qui risque en premier au niveau santé,
on va dire? C'est plutôt les organes, mais il y a aussi la vulnérabilité des gens. C'est-à-dire que avant confinement... Il y a des gens qui étaient potentiellement vulnérables à développer justement un risque addictif. Et c'est vrai qu'on peut poser des diagnostics d'addiction à partir d'un an d'évolution, mais il y a quand même ces consommations excessives. Elles sont un risque pour le foie, elles sont un risque pour les artères, elles sont un risque pour le cœur, elles sont un risque pour le cerveau aussi.
Moi, j'ai eu des témoignages autour de moi de gens qui disent que d'habitude, ils boivent pas forcément, d'ailleurs beaucoup, surtout pas tous les jours, et que là, pour le coup, c'est ce qu'ils font. Ils boivent tous les jours, pas forcément des quantités astronomiques, hein, mais certains disent je bois tous les soirs du vin, alors qu'avant, c'était pas le cas. Ça, c'est embêtant, ou s'ils ont besoin de ça pour se détendre, finalement, un verre ou deux, c'est pas si grave?
Encore une fois, il faut rester sur des normes. Il faut vraiment qu'il y ait 2 jours off de 2 jours sans consommer d'alcool, déjà dans la semaine. Vraiment, c'est une recommandation importante. Et si vous avez envie de boire de l'alcool, il faut boire des verres standards et il faut boire pas plus de 2 verres. Moi, je recommande quand même de la modulation parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance, surtout en ce moment, à utiliser l'alcool comme un anxiolytique, hein, comme un tranquillisant. Donc, ne l'utilisez pas comme ça. Utilisez-le pour vous faire plaisir. Pas tous les jours. Et si vous faites des apéros en visio avec n'importe quel support, buvez aussi des trucs sans alcool.
Ouais, les sodas, c'est très bien aussi. Mais bon, pas trop non plus parce qu'après, il y a trop de sucre. Alors, Jimmy.
Oui, parce que vous l'avez dit, parfois certains l'utilisent comme anxiolytique le soir. On est un peu stressé, on rumine, on a regardé les chaînes d'information en continu, on a appris de mauvaises nouvelles, on a du mal à dormir, on est moins actif. Et donc la consommation d'alcool, peut-être, est-ce qu'elle est plus à déconseiller le soir qu'au midi ou au moment de l'apéro? Est-ce que mieux vaut prendre peut-être un anxiolytique le soir qu'un verre d'alcool pour se détendre?
Moi, je crois que... Il n'y a pas d'heure pour consommer un verre d'alcool. Je pense que, et même
vous
les
dites pas qu'il faut boire à 10h du matin non plus, hein, c'est pas ce que vous êtes en train de dire, on est d'accord.
Le truc, c'est que, bon, il faut utiliser ce moment de consommation comme un moment convivial, dans des normes. Et moi, je pense que si on est trop stressé, trop angoissé, il faut d'abord passer par des techniques type relaxation, auto-hypnose. Il y a plein d'applications. Il y a plein de très bonnes applications qui permettent de le faire et ça fait vachement bien.
Vous pensez par exemple qu'on peut aussi relancer, j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient tenté de le faire, comme le Dry January, le mois sans alcool, le confinement sans alcool, ça pourrait marcher d'essayer de faire ça là en ce moment? C'est une bonne idée?
On pourrait faire du Dry, non mais on pourrait faire 2 jours
de Dry. Un Dry confinement?
Moi non, au moins 2 ou 3 jours de Dry, ouais, c'est faisable. Maintenant, on ne sait plus quel jour on est, donc on utilise le début de chaque jour, comme le lundi, où on met lundry, on fait un mardry. Vous voyez, on se fixe ça en normes. Et comme on utilise de plus en plus les réseaux sociaux et les systèmes de visio, comme FaceTime, Skype, etc., ben on se fixe ça entre amis.
Ouais, pourquoi pas des petits défis. Jimmy ?
Est-ce qu'on a une idée de la projection sur la vente d'alcool ? Est-ce qu'on sait si, une fois que les stocks ont été écoulés, les Français finalement sont assez raisonnables et si finalement on n'est finalement pas si addict que ça et qu'il faudra se concentrer sur une partie de la population qui est à risque, notamment de décompensation ou peut-être de violence sur leurs conjoints ou leurs enfants ?
Tout ça, enfin, en termes de vente d'alcool, je ne sais pas trop. J'ai entendu que les ventes de vin avaient chuté. Mais après, moi, je suis pas un spécialiste.
De champagne aussi, j'ai vu, moi. Ouais. Bon, ça m'étonne moins, quand même.
Je suis pas un spécialiste de l'économie de l'alcool. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Les téléconsultations ne s'arrêtent pas. Les patients continuent leurs soins. Et ceux qui veulent peuvent, en tout cas, demander conseil auprès des spécialistes via la téléconsultation. Il y a autre chose. Il y a à l'arrêt. Enfin, moi, je travaille surtout sur ça en ce moment. Je travaille sur qu'est-ce qui peut se passer lors du déconfinement avec la matrice addiction. Donc là, on est en train vraiment de réfléchir sur quand ça va être déconfiné, comment ça va se passer. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle population qui va arriver en consultation, des gens qui se sont démasqués avec ce confinement, malheureusement, qui a été un facteur accélérateur. Hein. Tout le monde ne va pas devenir addict, heureusement. Et bien encadré aussi, une fois que les gens vont sortir et se dire « bon, ok, c'est bon, on va faire la fête et on va se défoncer ». Ça va être un autre problème aussi.
Merci docteur Carilla, on ne va pas s'arrêter là avec vous, on reste encore un peu ensemble.
Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est toujours en ligne avec nous, le docteur Laurent Carilla, vous êtes psychiatre et spécialiste des addictions. On parle avec vous de la consommation d'alcool en période de confinement. On va passer au conseil maintenant pour les personnes qui nous écoutent, hein, qui avaient même peut-être déjà un problème, une consommation problématique, on va en parler juste après. Mais pour revenir à monsieur et madame tout le monde, à votre avis, on en a parlé un tout petit peu avant, les apéros Skype, Zoom, FaceTime et compagnie, là, ça permet quand même de garder un contact avec les gens qu'on aime, avec ses amis, ça c'est important. Mais du coup, les apéros alcoolisés, on a l'impression quand on regarde les réseaux sociaux que ça se multiplie, on voit plein de gens avec des verres. Ça c'est inquiétant si les gens en font tous les jours des apéros collectifs comme ça.
Alors, la visio, super, c'est super de garder le lien, c'est important même, je crois que ça rassure, ça désangoisse vraiment, et puis c'est un bon moment finalement. Et finalement, c'est quelque chose qu'on faisait pas trop, donc ça c'est un point positif. Après, en termes de consommation, je pense qu'il faudrait, le message, c'est ok, on fait un apéro, on se fait pas plus de deux verres d'alcool, de deux verres standards, bien évidemment, et on reste le temps qu'il faut, mais voilà, on s'éclate à un moment, et aussi on peut alterner nos deux verres d'alcool par des verres sans alcool pour maintenir des verres d'eau gazeuse, des verres de soda non sucré pour maintenir le temps d'échange et d'éclate entre amis ou entre familles, etc.
Oui, parce que ça, c'est très important. Il n'est pas question d'arrêter ces apéros Skype. Ça peut être des apéros, comme vous dites, au soda sans sucre. Ou même, on peut se dire qu'on fait des apéros alcoolisés, entre guillemets, que le week-end. Et puis la semaine, on continue les apéros, mais plus soft, quoi.
Exactement. Il faut que tout soit modulable. Et vraiment, dans la tête des gens, j'aimerais qu'ils impriment, et elles impriment, ces normes de 10 verres par semaine. Il ne faut pas les dépasser. Et si on peut faire un peu sans, on fait sans aussi.
Très bien. Jimmy Mohamed ?
Un autre problème justement avec la consommation d'alcool, c'est l'augmentation des violences conjugales, des violences aussi sur les enfants, car on sait que l'alcool est au cœur de ces problèmes.
C'est une question extrêmement complexe et ouais, c'est vraiment bien de la souligner. Il y a un numéro spécial qui a été mis en place. Je pense que pour les familles qui ont déjà été repérées où il y a des problématiques, il faut vraiment renforcer le suivi. Et je crois vraiment ce numéro-là, il faut le communiquer. Il ne faut pas hésiter, même si c'est dur dans le contexte de violence, etc. Mais il ne faut pas hésiter à le contacter. Parce que là encore plus qu'en non-confinement, il y a des risques.
Et ceux qui se rendraient compte eh bien, qu'ils n'arrivent pas à s'en passer ou à moduler, comme vous avez essayé le conseiller là tout à l'heure, même si ça fait que 4 semaines là, qu'ils ont pris des mauvaises habitudes, mais qu'ils sentent qu'ils ne peuvent vraiment pas s'en passer, c'est le moment de consulter directement un addictologue ou déjà faire un point avec son généraliste par téléconsultation. Là aussi, on peut le faire même si là déjà on a l'impression qu'on a un problème.
voilà, on se dit, bon, je crois que j'arrive pas à gérer, je crois que c'est pas bien ce que je fais. Tous les jours, je me dis, promis, demain, je le fais pas, mais j'y arrive pas. Il y a déjà Alcool Info Service, il y a un numéro qu'on peut contacter pour être un peu conseillé. Et il y a, comme vous dites, ouais, on peut passer aussi par le médecin généraliste, une téléconsulte pour une évaluation. Et après, le cap d'après, si on n'a pas, si on a honte, si on n'a pas envie de déranger le généraliste, ça peut arriver, hein. C'est le médecin de famille, on se dit, oh là là, il va me juger, etc. Alors que les médecins, personne ne juge personne, normalement. On peut passer par la consultation d'addictologie aussi, il y a des téléconsultations ouvertes partout.
Je rappelle quand même le numéro donc pour la prévention des violences conjugales, hein, c'est le 0819-019-11. Voilà. Jimmy Mohamed ?
Oui, et puis le numéro d'enfants en danger, c'est le 119. Donc c'est le numéro qu'on doit tous savoir. Il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de honte à signaler si besoin, si vous entendez des bruits un peu bizarres autour de vous. En ce qui concerne, vous l'avez un petit peu amorcé, les téléconsultations, est-ce que c'est un vrai outil dans la prise en charge des addictions où finalement on a quand même besoin de voir le patient en vrai? Est-ce que c'est mieux que rien? Où on arrive à être performant? Il faut développer et utiliser cet outil en cette période de confinement qui en plus va peut-être durer encore quelques semaines.
J'ai envie de dire, c'est pas... C'est un truc de dingue, ces téléconsultations, en fait, en addictologie. Parce que j'en parlais avec une collègue ce matin, par téléphone, et on se disait, il n'y a aucune perte de patients et de patientes en consultation. C'est impressionnant.
Ouais, c'est génial.
C'est-à-dire que tout le monde est là, tout le monde est au rendez-vous, et tout le monde attend l'échange. Donc c'est un truc, je pense qu'il va falloir qu'on évalue l'impact, en tout cas en addictologie et probablement en psychiatrie aussi, mais en addictologie de la téléconsultation, parce que je pense qu'il va falloir l'utiliser en post-confinement.
Ouais. Finalement, vous vous rendez compte que ce déploiement, il est très très utile, quoi.
Très très utile pour les patients, très très utile pour le suivi. On peut savoir, moi j'ai fait hospitaliser un patient qui habite pas, qui est pas en région parisienne, enfin qui est un peu loin, et je l'ai eu en téléconsultation. J'ai évalué les choses et je l'ai rappelé 15 jours après parce qu'on avait un rendez-vous. Il avait suivi mes conseils et il s'est fait hospitaliser à côté de chez lui pour un sevrage ciblé, etc., en alcool. Donc oui, il y a un impact de ces téléconsultations dans le suivi des patients. C'est capital pour nous. Et puis c'est vraiment rassurant aussi de voir que le confinement aussi aide certaines personnes. Alors là, c'est pas dans l'alcool, mais c'est dans d'autres substances. Aide certaines personnes à décrocher ou à maintenir leur décroche de consommation, ouais. Notamment de cocaïne.
Là, vous parlez de gens qui décrochent, c'est super, mais moi j'avais peur de l'inverse. Il n'y en a pas qui risquent de rechuter, je ne sais pas, même des anciens alcooliques qui étaient là depuis un an ou deux. Et là, avec le confinement, ils vont décompenser et rechuter, c'est possible aussi?
Ah oui, tous les scénarios sont possibles, mais en maintenant un suivi et une écoute, et il y a aussi la téléconsultation donc, des professionnels, mais il y a aussi les patients experts et les associations de patients qui ont développé de la visio. Des visio-réunions, donc je les encourage.
Des forums
aussi.
De soutien, ouais, c'est ça, c'est important,
oui.
Ça aussi.
Je les encourage à aller sur les forums fermés sur Facebook, par exemple, pour pas citer Facebook. Et il y a aussi de la visioconférence d'Alcooliques Anonymes et d'autres associations d'anciens buveurs. Donc il y a quand même un encadrement de ces patients-là et de ces patientes. Et puis vraiment ceux qui sentent en problème, qui sentent qu'ils n'arrivent pas à gérer alors qu'ils n'ont jamais été dans la filière de soins, il ne faut pas hésiter une seconde, en tout cas, à se faire évaluer.
Bien sûr. Merci beaucoup, docteur Carilla, d'avoir été avec nous pour nous livrer tous vos conseils vis-à-vis de la consommation d'alcool. On va retenir ce qu'il faut garder en tête, donc les repères habituels, c'est 2 verres par jour et pas tous les jours, ou même moins, bien sûr, bien évidemment. Merci, docteur Carilla.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed, et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc, notre sexologue et psychanalyste maison, qui nous rejoint. Bonjour Catherine. Et Catherine n'est pas là, j'ai l'impression. Bonjour Catherine. Jimmy, vous êtes là, vous?
Moi je suis là, mais écoutez, si vous comptez sur moi pour faire la chronique sexuelle,
on va attendre que Catherine revienne, parce que je suis sûre qu'elle va revenir. On doit avoir un petit souci technique, mais on va quand même lire la question de...
Je suis là.
Ah, vous êtes là, super. J'allais lire justement la question à laquelle vous allez répondre aujourd'hui. Bonjour quand même Catherine.
Bonjour Mélanie, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi tout s'était arrêté net. Quelle frustration terrible.
C'est ça.
Un cauchemar.
Ça tombe bien, on va parler de ça avec la question de Noémie. Depuis 2 semaines, je fais beaucoup de cauchemars liés au coronavirus. Ça me réveille chaque nuit, alors que la journée, je gère plutôt bien le stress, mais la nuit, cela m'épuise. Comment faire pour que mon sommeil ne soit plus pollué? Catherine, cette anxiété-là qu'on peut tous avoir un petit peu, plus ou moins d'ailleurs, par rapport à cette épidémie et au confinement, ça peut vraiment atteindre jusque nos rêves toutes les nuits comme ça? C'est fréquent ça?
Alors c'est pas jusque, c'est justement toute la fonction du rêve ou du cauchemar, c'est-à-dire que tout ce que nous vivons au quotidien dans nos journées, en temps habituel comme en particulier en ce moment, de toute façon génère automatiquement des tas de questionnements personnels, en interaction avec les autres, de sa survie, de son rôle à jouer, de ses capacités ou de ses incapacités, de son sentiment de puissance ou d'impuissance, et tout cela crée des conflits internes, des angoisses que notre inconscient essaie de gérer, et la nuit est le moment pour gérer toutes ces ambivalences que notre et toutes ces anxiétés que notre quotidien et notre journée produit. C'est pour ça que d'ailleurs, vous savez, en temps de guerre, il y a une époque où on essayait en tout cas de faire en sorte que les militaires ne dorment pas pour ne pas être surpris, ce qui fait que ayant un sommeil réduit, eh bien, ils n'avaient pas la possibilité de dormir et donc de gérer tout ce que générait la guerre, à savoir la peur de mourir ou la culpabilité de tuer. Il est absolument indispensable, notre inconscient a besoin de faire une auto-analyse dans nos nuits, et nos rêves et nos cauchemars sont là pour cela.
Alors Jimmy, vous qui êtes quand même en première ligne, vous arrêtez pas de faire des consultations, plus toutes les interventions sur le coronavirus, quasiment H24, vos nuits ça va vous ?
Écoutez, ça va, elles sont un peu courtes parce qu'il y a un bébé à la maison encore et qui fait pas trop ses nuits, donc c'est peut-être ça le point critique. Mais est-ce que, parce que comme vous l'avez dit, Mélanie, on se réveille coronavirus, le midi c'est du coronavirus, le soir c'est du coronavirus, le soir et la nuit on est censé se reposer, mais est-ce que nos cauchemars tournent toujours autour de notre quotidien, ou est-ce que c'est lié là à cette situation particulière où il y a un stress un peu généralisé?
Alors en fait, nos cauchemars évidemment se nourrissent de notre quotidien pour raconter des choses bien bien au-delà de ce qui se joue au quotidien. C'est-à-dire que si nous prenons le contexte actuel, Mélanie comme vous Jimmy, vous mangez, respirez et dormez du coronavirus, parce que évidemment c'est le sujet de préoccupation majeure bien sûr, mais aussi parce que vous avez un rôle à y jouer, pour l'un dans le soin, pour l'autre dans la recherche pour pouvoir nourrir l'information sur ce sujet, ce qui fait que vous êtes évidemment interrogé, et chacun d'entre nous, chacun à notre manière, interrogé sur votre compétence en permanence par vous-même à pouvoir y arriver, être en mesure d'y arriver, et donc évidemment que c'est ce sujet qui s'exprime dans vos rêves, parce que c'est aussi ce sujet qui est votre principale préoccupation. Mais plus largement, on pourrait se dire que ça interroge notre question existentielle de compétences qui là est particulièrement mise à l'épreuve dans un temps de grande pression sur un sujet. C'est la peur, si vous étiez comédien, que vous deviez jouer une pièce de théâtre, vous répéteriez toute la journée et très certainement que la nuit vous rêveriez votre personnage par peur d'incompétence à le porter jusqu'au bout.
Et Catherine, pour répondre à la question de Noémie qui dit que ça l'épuise, c'est normal que ces rêves coronavirus, enfin ces cauchemars, elle dit même ça l'épuise à ce point?
Oui, parce que ça demande d'abord l'activité cérébrale est une activité importante qui vous met en mouvement, hein, puisque c'est dans le temps du sommeil paradoxal que nous rêvons, donc c'est un temps où nous sommes entre sommeil et éveil, donc il y a tout notre corps qui joue, qui souffre la situation, le rythme cardiaque, la respiration qui est vraiment très sollicité pendant le temps du rêve, donc c'est fatigant, et ce que nous cherchons nuit après nuit, c'est à solutionner notre équation. Et ce qui est épuisant, c'est que nuit après nuit, il n'y a pas de solution, que le lendemain est toujours le même avec la même difficulté, et donc l'apaisement n'étant pas trouvé, il y a un épuisement tant physique que psychique. Parce que ce qui serait évidemment un soulagement, quand bien même ce serait fatigant physiquement, c'est que psychiquement, nous ayons trouvé au cours de la nuit la solution pour nous mettre enfin en paix.
Oui. Jimmy, une dernière question ?
Est-ce qu'on peut essayer de contrôler ses cauchemars, de ne plus en faire, ou peut-être d'en faire moins souvent, ou de rêver peut-être, qui sais-je, à des vacances ou autre chose? Est-ce que vous avez des techniques ?
Alors, bien sûr que les gens qui ont la conscience de leur rêve, la connaissance de leur rêve et de leur capacité à l'interpréter, déjà pouvoir interpréter nos rêves le lendemain, puisque quand bien même ils se ressemblent tous, ils racontent toujours un petit peu comme une série policière, ils racontent à chaque fois un épisode nouveau qui est un dénouement petit à petit vers une issue. Donc évidemment que pouvoir décoder les choses permet de s'apaiser. Mais sinon, évidemment, c'est de se mettre dans des situations de zénitude avant de se coucher, de se faire des propositions de jolies pensées en espérant les garder et les étirer tout au long de la nuit.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Continuez à nous envoyer vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur.